Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. En dépit de la crise financière mondiale, l'Afrique subsaharienne a connu une croissance économique soutenue ces cinq dernières années. Selon Salifou Issoufou, économiste du FMI, cette croissance tient en partie à l'augmentation des investissements publics. Le gonflement des dépenses publiques peut toutefois avoir des effets délétères si les crédits servent à financer des projets mal choisis ou s'ils sont financés par des prêts excessivement coûteux qui risquent d'alourdir le fardeau de la dette nationale. Je me suis entretenue avec Salifou Issoufou qui nous a d'abord expliqué les différentes formes d'investissement public dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Bon, il y a deux types d'investissements vraiment. Il y a les investissements publics et il y a les investissements privés. Exemple d'investissement public, c'est les investissements en infrastructure. Ça permet en fait de créer du capital physique. L'État peut aussi investir dans l'éducation et la santé. Là, ça peut en fait générer le capital humain. Et les investissements privés, tu peux avoir des investisseurs privés dans le pays, c'est-à-dire les résidents du pays, qui créent des entreprises. Tu peux aussi avoir les investissements privés IDE. Donc ça, c'est les investisseurs étrangers qui viennent et qui financent les entreprises dans le pays d'accueil. Maintenant, en termes de type de financement, en ce qui concerne les investissements publics, il y a les impôts, il y a aussi les emprunts domestiques, c'est-à-dire l'État essaie d'avoir des prêts au niveau des banques locales. L'autre partie, c'est les dons et les prêts concessionnels. L'État peut aussi emprunter aux taux qui sont commerciaux, c'est-à-dire, bon, ça, c'est des taux qui sont élevés par rapport aux taux des prêts concessionnels. Maintenant, en ce qui concerne les investissements privés, tu as les capitaux étrangers. Donc, les investisseurs privés résidents, ils peuvent essayer d'avoir des fonds à l'étranger. Ils peuvent aussi essayer d'emprunter localement ou bien ils peuvent utiliser leurs propres économies pour financer leurs propres entreprises. Donc, d'une manière générale, c'est ça, en fait, la différence entre les différents types d'investissements et leurs sources de financement.
En dépit de la crise de 2008, l'Afrique s'en est très bien sortie en termes de croissance. Est-ce que les niveaux d'investissement public et privé ont suivi cette tendance?
Avant la crise économique de 2008, plus précisément entre 2004 et 2008, l'Afrique subsaharienne en fait a connu vraiment un environnement économique favorable. Donc la situation macroéconomique était vraiment favorable. Il y avait le taux d'inflation d'une manière générale était vraiment bas et le niveau de la dette publique était aussi bas. Il y a aussi la stabilité sociale. Il y a eu une baisse des conflits armés en Afrique subsaharienne. Il y a eu aussi des flux des capitaux étrangers. Donc, les sources de financement étaient vraiment disponibles. Donc, cela vraiment a conduit à une croissance élevée dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, ça a permis à beaucoup de pays d'avoir des excédents budgétaires et aussi d'accumuler des réserves de change. Et donc, ces excédents budgétaires et aussi ces réserves de change vont jouer un rôle important pendant la crise. Donc, avec la crise, il y a eu une baisse des exportations. Donc, ça conduit aussi à une baisse des recettes fiscales. Donc, la croissance qu'a connue l'Afrique subsaharienne avant la crise a connu un ralentissement. Maintenant, dans ce genre de contexte, ce que le pays généralement font, c'est essayer d'entreprendre des dépenses publiques pour un peu contrecarrer en fait les effets négatifs de cette crise. Et comme beaucoup de ces pays ont accumulé des réserves d'échange et ont connu des excédents budgétaires, il leur était possible en fait d'entreprendre des dépenses dans les investissements publics, notamment les dépenses dans les infrastructures, les dépenses dans la santé et l'éducation. Donc ces dépenses en fait ont un peu permis à l'économie de relancer. En fait, la relance économique, ça a permis la relance économique. Donc, on peut dire que les investissements publics ont connu un certain accroissement durant la crise et ça a eu vraiment un effet positif.
Donc, si je comprends bien, ces investissements publics ont augmenté pour essayer d'augmenter la croissance. Et donc, est-ce qu'ils ont véritablement eu un impact significatif et positif sur la croissance en Afrique?
L'accroissement des investissements publics pendant la crise, bon, ça a eu un effet, ça a aidé en fait à relancer l'économie. Maintenant, il est un peu tôt pour conclure que ces investissements publics ont eu un effet soutenu sur la croissance. On verra dans quelques années si ça a eu un effet soutenu. Mais ça a aidé quand même à relancer l'activité économique. Maintenant, d'une manière générale, bon, les investissements publics, historiquement, il a été vraiment très difficile d'isoler un cas particulier où l'accroissement des investissements publics a eu un effet positif et soutenu sur la croissance. Mais cela ne veut pas dire que les investissements publics ne peuvent pas avoir des effets positifs, bien au contraire.
Donc, si je comprends bien, il n'y a pas d'études à long terme qui prouvent que l'investissement public ait un effet long et soutenu sur la croissance, mais cependant, il y a des exemples tangibles qu'elle est bénéfique à la croissance.
Oui, il y a des exemples tangibles. Et en fait, la raison pour laquelle il n'y a pas eu des études vraiment concluantes, c'est parce que tu peux avoir une augmentation des investissements publics et une augmentation de croissance, mais c'est difficile de distinguer lequel a causé l'autre.
Alors maintenant, parlons plutôt des risques. Je suppose que bon, les investissements publics, d'accord, ils ont un aspect positif, mais il va y avoir des risques associés à ce type d'investissement aussi. Quels sont-ils ?
Oui, effectivement, il y a des risques qui sont associés aux investissements publics. L'un des risques, c'est le type de financement que l'État a choisi pour financer les investissements. Par exemple, si l'État choisit d'augmenter les impôts pour financer les investissements, ça peut avoir un effet négatif sur l'activité privée. Donc, les investissements privés peuvent diminuer, la consommation privée peut en souffrir. Donc, ça, c'est un effet négatif. Si l'État décide d'emprunter de l'argent à des taux vraiment très élevés, là aussi, ça peut avoir un effet sur la dette. Donc, ça peut conduire à une augmentation de la dette. L'autre aspect, c'est la gestion même des investissements. Dans beaucoup de pays, il peut y avoir une situation où, par exemple, la planification des investissements, le choix des projets, les études de faisabilité, la mise en œuvre même des projets, ils peuvent avoir des difficultés sur ce plan. Donc, tout ça, ça peut générer des investissements publics qui ne génèrent pas les bénéfices escomptés. Et dans ce cas de figure, c'est comme s'il y a des pertes de ressources, parce que ça, c'est des ressources qui peuvent être utilisées, par exemple, pour des dépenses sociales, des dépenses de santé. Donc, ça, c'est des problèmes qui sont liés, en fait, aux investissements publics.
Donc, comme vous l'aviez mentionné, l'un des risques les plus graves associés à l'investissement public, c'est l'endettement. Il y a de nombreux pays africains qui ont récemment accompli avec succès l'initiative PPTE. Alors, bon, tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que l'initiative PPTE et aussi comment est-ce que ces pays peuvent-ils s'assurer de garder le cap et d'éviter le surendettement lié à l'emprunt pour stimuler cet investissement.
L'initiative PPTE, c'est en fait les pays pauvres très endettés. Donc, c'est une initiative qui a été entreprise pour aider ces pays à réduire leur niveau de dette. Cela a permis à beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, en fait, d'avoir leur niveau de dette publique vraiment diminué. Donc, avec un niveau de dette bas, cela a permis à ces pays de pouvoir emprunter de l'argent pour financer des investissements publics. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si les pays empruntent à des taux vraiment très élevés pour financer des projets qui sont mal choisis et des projets d'investissement qui sont mal gérés, cela peut conduire à un problème de la viabilité de la dette. Ça peut conduire à un accroissement accéléré de la dette publique et aussi, d'un autre côté, le manque de revenus générés par ces investissements qui sont mal choisis, ça peut accélérer le processus de l'accroissement de la dette. Donc, d'une manière générale, certes, la PPTE a aidé, mais il faut que les pays essayent de choisir des projets qui sont viables et utiliser les prêts non concessionnels pour financer ces projets-là.
Donc, en prenant compte de l'ensemble de ce qui précède, du problème de l'endettement, des problèmes des types de financement, du problème de l'impact significatif de l'investissement public, quelle est la meilleure stratégie d'investissement pour les investissements publics pour les pays d'Afrique subsaharienne?
Bon, selon moi, la meilleure stratégie serait de continuer à réformer en fait la gestion des ressources financières de l'État. Et par gestion des ressources financières, je veux dire assurer que les recettes, vraiment que l'État collecte, que ça représente les recettes même de l'État et que les dépenses de l'État soient un peu coordonnées avec les recettes. L'autre aspect aussi, c'est la gestion des investissements publics même. Comment choisir un projet, comment faire les études de faisabilité, comment mettre en œuvre ces projets d'investissement, tout ça c'est très important parce que si c'est bien fait, ça veut dire que ça peut générer, on peut avoir des infrastructures qui sont vraiment très efficientes, qui sont productives et qui génèrent de la croissance. Il faut aussi que l'État s'assure de collecter, par exemple, les péages. Si l'État construit une autoroute, il faut que l'État s'assure que les revenus qui sont collectés, que ça serve en fait à maintenir les autoroutes et aussi à aider à payer les prêts. Bon, si l'État a emprunté, par exemple, pour construire cette autoroute. Je pense qu'il faut aussi que l'État essaie de faire participer le secteur privé. Par exemple, l'État peut faire des partenariats avec le secteur privé pour entreprendre un certain nombre d'investissements dans les infrastructures, par exemple. Donc, je crois que d'une manière générale, si cette approche est prise, ça peut vraiment aider à faire en sorte que les investissements publics soient productifs, que ça génère la croissance escomptée et que l'État ait des revenus nécessaires pour assurer la viabilité de la dette à long terme.
C'était Salifou Issoufou du département des études du FMI qui s'entretenait à propos de l'investissement public en Afrique subsaharienne. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.